Merci de m'accueillir à cette université d'été. Nous allons donc parler de ce thème riche, mais parfois difficile, qui est donc de traverser l'épreuve du chômage. Ce que je vous propose d'abord, c'est de parler de la pertinence du thème traversé dans le cas de la perte d'emploi. Dans la perte d'emploi, il y a des passages à traverser. C'est pour ça que le thème de cette université est particulièrement adapté à cette situation. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après dans le chômage. Il y a quand on a du travail, quand on le perd et quand on le retrouve. Et c'est ça que nous allons essayer de regarder ensemble. Et j'espère que dans ce processus, ça vous permettra non seulement de mieux comprendre ce qui se passe autour de vous, peut-être pas à titre personnel, si vous avez un emploi, vous en avez eu un, et ça ne vous concerne plus directement, mais autour de tous les gens, les jeunes en particulier, qui sont autour de vous et qui traversent cette difficulté. Et ce qui est important de se souligner, c'est que chaque cas est unique. Pourquoi ? Parce que la situation de chaque un petit peu plus près, mais d'accord. Dans chaque situation est particulière, les raisons de la perte d'emploi sont très diverses. Les raisons de la perte d'emploi peuvent être une démission, ça peut être un licenciement, ça peut être une maladie, ça peut être une faillite d'entreprise, ça peut être une restructuration d'entreprise. Donc les situations personnelles varient énormément. Ce qui varie énormément aussi, c'est la capacité d'une personne à gérer cette situation. Vous seriez surpris de voir combien certaines personnes gèrent cette perte d'emploi relativement aisément, et pour d'autres, c'est un véritable drame. Et ça dépend beaucoup de la personne et comment cette situation s'est produite. Et puis, il faut être réaliste, les possibilités de retrouver un emploi varient énormément d'une personne à l'autre, et d'un métier à l'autre, et d'une région à l'autre. Donc chacun est vraiment unique. Et ce que j'espère pouvoir faire aujourd'hui, c'est le fait d'en parler ensemble, va, j'espère, nous aider à mieux comprendre les situations que ces personnes rencontrent, et pouvoir les aider à traverser ces difficultés, parce qu'il y a des solutions, et c'est ce à quoi je m'emploie en tant que rôle de responsable d'actes dont je parlerai un peu plus tard. Il est important pour mieux comprendre au fond mon point de vue, ce que je vais essayer de développer, c'est quel est mon point de départ, quel est mon point de vue personnel, quelle est mon expérience sur le sujet. J'ai une double expérience parce que bon, j'ai été moi-même, avant de prendre ma retraite il y a quelques années, en responsabilité comme cadre dirigeant dans une entreprise multinationale. J'ai travaillé une dizaine d'années en France et j'ai travaillé 23 ans à l'étranger, en particulier en Asie-Pacifique. Donc j'ai une expérience directe de variation de conditions de travail, de variation culturelle, de difficultés à gérer. Et comme tout responsable d'entreprise, il m'a fallu, à certains moments, licencier les personnes, il m'a fallu fermer des usines, il a fallu recruter, donc c'est quelque chose que j'ai vécu directement. Et donc j'en connais à la fois les traumatismes et l'importance d'accompagner les personnes et les organisations dans ce genre de circonstances. Et c'est en partie pour ça, mais pas la seule raison, pour laquelle j'ai créé l'antenne d'ACTE à Toulouse. ACTE, c'est l'Association chrétienne pour le travail et l'emploi, qui est basée chez les Dominicains à Rangueil. Nous avons des locaux chez les Dominicains à Rangueil. À chaque fois que vous allez chez les Dominicains, n'hésitez pas à frapper à notre porte. Et c'est une organisation qui existe à Toulouse depuis un peu plus de 8 ans. Nous sommes 13 bénévoles et nous avons aidé près de 200 personnes maintenant à traverser cette période de difficulté de recherche d'emploi. Alors, qu'est-ce que nous faisons chez ACTE ? Rassurez-vous, je ne vais pas simplement vous parler d'ACTE. parce que c'est tout à fait pertinent pour certaines personnes. C'est évidemment ce que nous faisons et nous le faisons avec beaucoup de cœur, mais ça n'est pas pertinent pour tous. Donc je vais essayer de vous parler d'actes en quelques instants, mais surtout d'essayer d'élargir le sujet pour parler de la difficulté et des moyens d'aider les personnes à la recherche d'emploi. Donc, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons des bilans de compétences approfondis. Les bilans de compétences, ça veut dire quoi ? C'est pour essayer de rechercher, pour aider les personnes à rechercher, la situation, le type de travail, le type d'environnement qui lui convient le mieux possible. Et pour se poser ce genre de questions, il faut vraiment prendre le temps. Et chez ACT, nous faisons un bilan de compétences qui dure pratiquement 3 mois. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très approfondi. Mais ce n'est pas seulement approfondi au niveau des entretiens que nous avons avec les personnes, c'est aussi très approfondi au niveau de l'ensemble de la personne. On ne va pas s'intéresser uniquement à ce qui est fait par la personne sur le plan professionnel, mais à la totalité de ses centres d'intérêt et de qui elle est, de ce qu'elle fait, des valeurs qui la motivent. Par rapport à d'autres associations, nous avons 3 caractéristiques. Nous adressons particulièrement aux cadres et jeunes diplômés. En réalité, les personnes qui ont un bagage suffisant pour pouvoir utiliser les outils d'analyse psychologique en particulier que nous utilisons. Nous avons aussi une méthode très, très structurée qui est basée sur des documents que nous proposons aux personnes qu'elles vont remplir à chaque réunion. Et ces réunions sont 2 fois par semaine en face à face avec un consultant. D'1h30 à chaque fois. Donc, quand je dis approfondi, c'est vraiment très approfondi. Et cette méthode très structurée est suivie par tous, exactement de la même manière. Mais l'autre caractéristique qui est importante pour nous, c'est que nous sommes une association donc chrétienne et qu'il nous faut respecter un certain nombre de valeurs. Nous ne faisons évidemment pas de sélection sur les personnes que nous aidons en fonction de leur pratique religieuse, pour savoir s'ils ont été baptisés ou non. Ce n'est pas l'objet de l'activité. Mais par contre, on est très attaché à nous-mêmes vivre un certain nombre de valeurs que moi j'appelle universellement chrétiennes, c'est-à-dire qui peut se retrouver en dehors du monde chrétien, mais qui font certainement partie des valeurs chrétiennes, c'est-à-dire l'accueil de la personne. On ne tape pas à la porte de chez ACT parce que tout va bien. On ne tape pas à la porte de chez ACT parce que ça va mal. Donc il est important pour nous de pouvoir accueillir ces personnes, de les écouter. C'est pas nous qui allons leur dire voilà ce que vous devriez faire, c'est eux qui vont, grâce à la méthode que nous proposons, le découvrir. Beaucoup de bienveillance, pas seulement de la bienveillance de notre part pour les personnes qui viennent nous voir, mais les aider à réapprendre la bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai. La perte d'emploi, c'est un traumatisme. Les traumatismes, ça génère une perte de confiance en soi et il faut petit à petit reprendre confiance en soi. Et c'est en étant bienveillant vis-à-vis de soi-même qu'on arrive à y arriver. Et puis chacun est légitime, chacun a son histoire, chacun a une raison pour se retrouver dans cette situation. Et c'est à nous de prendre ça en compte. Voilà. Alors comment procédons-nous ? Commençons par ce qu'on appelle une phase réflexive qui va essayer de répondre à un certain nombre de questions. Qui suis-je vraiment ? Donc on va demander aux personnes de rédiger un autoportrait. Et ce n'est pas un exercice très facile de rédiger un autoportrait de 2 pages qui ne soit pas un portrait de la personne que vous auriez aimé être, ni de la personne que vous pensez votre employeur voudrait que vous soyez, mais de la personne que vous êtes vraiment. Et on va utiliser un certain nombre d'outils, dont de la graphologie, dont un outil que certains d'entre vous connaissent peut-être qui s'appelle le MBTI, ou des outils de dynamique de vie qui vous permettent de définir les moteurs qui vous animent. La nature des outils n'est pas l'aspect le plus important. Ces outils vont vous permettre de nourrir votre propre réflexion de façon à dire au fond qu'est-ce qui est important pour moi. Quelles sont les choses que je fais aisément ? Quelles sont les choses qui me sont plus difficiles ? Quelles sont les choses qui me conviennent ? Quelles sont les choses qui ne me conviennent pas ? Et à partir de cette, de cet autoportrait, il y a une deuxième phase qui est encore plus importante, qui est de s'accepter tel qu'on est. Ne pas essayer de prétendre qu'on est quelqu'un d'autre, parce qu'on pense qu'on trouvera plus facilement un travail comme ça, ou parce que c'est plus socialement acceptable. Donc ça, c'est un processus qui va prendre plus de temps. Donc on va regarder tous ces éléments de personnalité, et ensuite on va décrire très en détail ce que les personnes ont fait sur le plan professionnel, mais aussi leurs engagements sur le plan personnel. Les engagements religieux, les engagements politiques, les engagements associatifs, le sport, la lecture, toute activité qui fait que vous êtes quelqu'un d'unique. Et donc, à partir de cette description aussi complète que possible, on va ensuite, et c'est là probablement la force de la méthode ACT, comparer expérience et personnalité. Vous savez, c'est un peu comme une boîte de vitesse. Si vous avez un engrenage, et que l'engrenage correspond parfaitement bien entre ce que vous faites et votre personnalité, ça va accrocher sans aucune difficulté. Si par contre, ça ne correspond pas, ça va commencer à frotter, ça va commencer à chauffer, et ça va casser. Et l'histoire des reconversions, des conversions réussies, des professions réussies, c'est une question d'adéquation entre ce que vous faites et qui vous êtes. Et quand il y a l'équation, vous êtes la personne au bon endroit et vous réussissez. Et quand c'est le contraire, vous avez des difficultés. Et donc ça va vous permettre de bien comprendre cette adéquation entre votre personnalité et vos expériences et dire voilà, ça je suis fait pour ça. Au contraire, je ne suis pas fait pour ça. Ça ne dit pas que ça n'est pas bien, ça n'est juste pas pour moi. Et donc c'est à partir de ce moment-là que vous allez être en mesure de définir quels sont les critères de votre réussite. Pourquoi je réussisse, il faut que... Alors je vais vous donner un exemple qu'on cite souvent. Si vous travaillez dans l'informatique, il y a des personnes qui sont faites pour avoir travaillé sur des systèmes informatiques comme SAP ou autres gros systèmes avec beaucoup de technologies, et il y a énormément de personnes qui travaillent sur ces systèmes. Il y a d'autres personnes qui sont faites pour travailler, pour aider des clubs, des animations, des petites entreprises, de façon à leur permettre d'utiliser une informatique simple. Les motivations ne sont pas les mêmes, les types d'activités ne sont pas les mêmes, les compétences ne sont pas les mêmes. Ce sont deux informaticiens, mais c'est pas la même chose. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a des gens qui sont adaptés au premier cas, d'autres qui sont beaucoup plus adaptés au deuxième. Et ensuite, une fois qu'on a défini donc ces critères, on va s'approprier un projet. Et un projet, c'est quelque chose pour lequel j'ai une confiance pleine. Et comme j'ai confiance, je peux inspirer confiance aux personnes avec lesquelles je vais discuter. Vous savez, dans ces accompagnements que nous faisons, il y a par moments des moments où, mon Dieu, mais c'est bien sûr, je suis fait pour ça. Et non, on y reviendra par la suite, mais vous savez tous pertinemment qu'il y a des moments, des endroits, des situations qui vous conviennent, vous sentez à votre place et l'autre non. Et c'est vraiment ça que nous essayons de transformer. Donc il faut aussi, une fois qu'on a défini un projet professionnel, il faut aussi confirmer la pertinence de ce projet. On n'est pas dans un monde dans lequel tout est disponible à chacun tout de suite. Il y a des projets qui ne sont pas possibles aujourd'hui, il y a des projets qui ne sont pas possibles dans la région où nous sommes aujourd'hui. Il y a beaucoup de situations familiales qui vous empêchent d'aller prendre un poste à Paris ou à Lyon. Et tout ça, il faut le prendre en compte. Et donc, rencontrer un maximum de personnes qui travaillent dans ce que vous voulez faire, et confronter votre projet à la réalité est une chose absolument nécessaire. Et puis après, il faut faire travailler son réseau. Alors, ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais le réseau, ça fonctionne. Le réseau, c'est pas seulement des gens qui vont vous pistonner. Ça, c'est la mauvaise conception du réseau. C'est des gens qui vont vous donner des informations. C'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de dire « Je comprends mieux ce que l'on attend de moi » dans ce type de job, et je sais où ces jobs se trouvent. Et c'est à partir de l'activation du réseau que vous allez pouvoir faire ce travail. Et puis, très concrètement, il faut réussir ces entretiens. Et donc on fait beaucoup de répétitions d'entretien d'embauche. Il faut savoir répondre aux questions difficiles. J'ai appris que vous étiez au prud'homme. Ça fait 2 ans que vous ne travaillez plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce ne sont pas les réponses que l'on improvise au dernier moment. Il faut savoir répondre à des questions difficiles et mettre en avant ses compétences, ses capacités, ce que vous allez apporter à l'entreprise que vous essayez de rejoindre. Donc voilà pour Acte, mais je vais essayer d'élargir un peu le sujet parce que ça n'est pas juste une présentation sur Acte que je voudrais faire. Je voudrais parler d'une situation qui est de plus en plus fréquente et que nous rencontrons pratiquement sur, pas loin de 50% des personnes qui viennent nous voir aujourd'hui, c'est qu'à un moment ou à un autre, elles ont traversé un burn-out. Et je veux dire que c'est un phénomène relativement nouveau, parce que quand j'ai commencé, moi, il y a 8 ans, ça n'était pas le cas. Et que moi, dans mes 30 et quelques années de travail, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était en burn-out. Donc c'est un phénomène qu'il nous faut comprendre, et que je vais essayer de mieux décrire pour vous, parce qu'on en parle beaucoup, mais il est important de bien le comprendre. Donc, en français, ça s'appelle le syndrome d'épuisement professionnel. Hein? Moi, j'aime bien évoquer l'expression burn-out. Qu'est-ce que c'est qu'en anglais burn-out? C'est une chandelle qui s'éteint. C'est-à-dire, vous voyez, la chandelle qui n'a plus de cire et qui petit à petit s'éteint parce qu'elle n'a plus de carburant. Et c'est ça l'expression burn-out en anglais. Et ça évoque extrêmement bien cette espèce d'épuisement de ressources qui fait que cette flamme qui est la vie s'éteint progressivement. Et donc là, je m'appuie sur un travail qu'on a fait avec un psychologue et qui a lui-même travaillé sur le sujet. Donc il y a ce syndrome du burn-out à 3 dimensions. On voit un épuisement émotionnel, un épuisement physique et un épuisement psychique, c'est-à-dire les gens sont très déstabilisés au niveau émotionnel, c'est-à-dire ils perdent par exemple l'intérêt dans ce qu'ils font, ils se mettent en colère facilement, ils se mettent à pleurer facilement, donc c'est des réalisations immédiates, physiques et psychiques, tout à fait visibles. Il y a un cynisme vis-à-vis du travail, c'est-à-dire les gens se détachent de l'intérêt du travail, et il y a une diminution absolument radicale de l'accomplissement personnel au travail. Et c'est sans doute la meilleure définition de la situation de burn-out sur laquelle je reviendrai sans doute, qui est « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Mais qu'est-ce que je fais là ? Donc, les symptômes du burn-out, il y en a un certain nombre. On a ce sentiment de perte de contrôle. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus qui fait quoi, on ne sait plus qui est responsable, on est responsable de quoi. On n'est plus au contrôle de la situation. Souvent, il y a des situations de troubles du sommeil, de douleurs de dos, de prise ou perte de poids, nausées. Ça, c'est tout à fait révélateur d'un mal-être psychique qui va se transformer en psychosomatique. Il y a des pertes de concentration, il y a des oublis, il y a des erreurs, très souvent difficulté à décider. Ce sont des signes assez visibles du burn-out. Et puis repli sur soi, isolement, comportement addictif, alcool, tabac, quelquefois des drogues, et un désengagement progressif du groupe dans lequel vous êtes. Et toutes ces situations sont l'illustration d'une situation de déséquilibre pour l'individu qui ne dispose plus des ressources pour y faire face. Donc c'est cette image de la bougie qui s'éteint. La personne n'a plus les ressources nécessaires pour faire face à ces difficultés. Alors les causes, on parle beaucoup des causes possibles. Il y a des causes qui sont relativement identifiables. L'intensité du travail, la charge à réaliser, considérée comme impossible. J'ai, J'insiste personnellement assez souvent sur le fait que c'est une charge à réaliser considérée comme impossible. Souvenez-vous de vos jeunes années quand vous prépariez vos examens et que vous avez commencé votre vie active. Vous avez tous travaillé beaucoup. Vous avez tous eu des challenges importants. Vous n'êtes pas tombé en burn-out. Pourquoi ? Parce que vous étiez dans une dynamique de réussir quelque chose, de vous attacher à vaincre un obstacle. Le burn-out, c'est quand on se dit la montagne est juste trop haute, j'y arriverai pas. Et je ne peux rien y faire. Cette espèce de tsunami qui vous emporte et qui fait qu'on est totalement dans la possibilité de répondre à ces difficultés. Quand vous voyez les personnes qui sont normalement dans des relations sociales, civiles, qui viennent, qui sont en conflit, qui deviennent agressives, il y a quelquefois des agressions physiques, vous voyez que le burn-out n'est pas très bon. Il y a beaucoup de situations dans les organisations modernes où les personnes se sentent en manque d'autonomie et de marge de manœuvre. Les organisations modernes sont complexes. Et très souvent, les personnes ont du mal à identifier clairement ce qu'ils veulent faire. Il y a eu un autre facteur qui me paraît personnellement très important, c'est que tout va beaucoup plus vite. La communication va beaucoup plus vite. Quand vous et moi avons commencé notre carrière professionnelle, on a envoyé une lettre, il fallait que cette lettre soit reçue, il fallait que le cadre écrive un brouillon, qu'il envoie ça à ce secrétaire qui allait le taper, qu'il le remette dans une enveloppe. On avait une semaine pour réfléchir. Aujourd'hui, on a 2 minutes. Donc tout va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. L'information, les prises de décision, les relations interpersonnelles, tout ça va beaucoup plus vite. Et il faut admettre que le nombre d'heures travaillées ne cesse de diminuer. Donc on a une pression de plus en plus importante parce que l'espace dans lequel on fait ce travail, on doit faire ce travail, ne cesse de se rétrécir. Regardez le phénomène français des ponts. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est très content d'avoir le vendredi, mais vous faites le même travail. Les anglo-saxons, avec lesquels j'ai passé pas mal d'années, ont beaucoup moins de ponts. Ils rentrent chez eux à 6 heures. Donc il y a cette pression qui existe aussi, qui est un phénomène qui est, à mon avis, pas suffisamment reconnu, surtout que tout va beaucoup plus vite. Et puis je l'ai évoqué tout à l'heure, les organisations sont de plus en plus complexes. Le nombre d'intervenants qu'il faut convaincre aujourd'hui pour prendre la moindre décision est absolument considérable par rapport à autrefois. Autrefois, vous alliez voir votre patron qui travaillait à côté de vous, et qui prenait une décision instantanément. Elle aurait pu être favorable ou non, peu importe. Mais les relations étaient simples. Aujourd'hui, il va falloir convaincre 3 ou 4 personnes, et dans des organisations dans lesquelles je travaillais moins, et elles peuvent être dans 3 pays différents. Donc, tout ça fait que tout se complexifie beaucoup, et que donc, assez souvent, les personnes se trouvent dans une situation où elles ont le sentiment de ne plus pouvoir contrôler les choses. Alors, burn-out et dépression, c'est pas la même chose. Mais il faut accepter que le burn-out, effectivement, peut mener à la dépression. Alors, il y a beaucoup d'aspects similaires, hein, épuisement, isolement, manque d'énergie. Mais le burn-out, c'est spécifiquement lié au travail. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui est dans une situation de burn-out, quand il est en dehors d'une situation de travail, va avoir un comportement relativement normal. Pas totalement épanoui, mais disons que une fois que la situation professionnelle sera résolue, ça devrait s'améliorer. Mais tandis que la dépression, ça n'est pas le cas. Et les signes de soi et une certaine vitalité, la dépression, c'est le manque de désir, hein, c'est le manque d'envie, sont relativement bien conservés. Mais dans sa forme extrême, et on a eu des cas qui sont venus vers nous, le burn-out se traduit par un arrêt brutal de fonctionnement du cerveau. Vous savez, c'est comme c'est des ordinateurs qui vont se mettre en mode sauvegarde. Et des gens tombent par terre, au milieu d'une réunion, paf, comme un arrêt cardiaque. Donc ça peut être extrêmement sévère. Vous n'avez pas du tout à négliger. Voilà. On va essayer de passer à quelque chose d'un peu plus gai, parce que toutes les pertes d'emploi, tous les emplois ne mènent pas au burn-out, toutes les pertes d'emploi ne mènent pas au chômage de longue durée. Au contraire, on peut retrouver du travail. Et ce que j'ai essayé de faire ici, c'est d'identifier les grands principes qui permettent un retour de l'emploi plus facile et plus rapide. Là aussi, c'est peut-être quelque chose qui concernera vos proches, votre entourage, et qui vous permettra de les aider pour traverser cette période, puisque c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui. Premier élément absolument essentiel, il faut que la personne puisse reprendre confiance en elle. Ce n'est pas parce que je suis sans emploi que je suis sans valeur. Et ça, c'est vraiment le travail des gens qui accompagnent les personnes dans cette période, de renouveler cette confiance en soi qui est indispensable. Pour une raison très simple, pour inspirer confiance aux autres, il faut d'abord avoir repris confiance en soi. Si j'arrive à un entretien d'embauche et on voit parfaitement bien que j'ai complètement perdu confiance en moi, comment voulez-vous que je puisse convaincre la personne de me donner ma chance? Donc reprendre confiance, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je peux vous dire que quand nous recevons des personnes, à peu près un tiers des premiers contacts, les personnes sont en pleurs. Et qu'est-ce que nous voyons? Après un certain nombre de semaines, les personnes se redressent, les personnes sourient de nouveau, ont de nouveau un contact social, et on sait qu'on est sur le bon chemin. Et c'est vraiment une étape absolument indispensable. Deuxième chose, ne pas rester seul. Le chômage isole socialement, isole psychologiquement, et la peur de demander de l'aide est le premier obstacle à venir. Alors on peut taper à la porte d'ACT, on peut taper à la porte de toute association qui existe, mais il ne faut pas rester seul. Et je vous dirais, il ne faut pas aller chercher de l'aide chez ses plus proches, parce que ses plus proches sont trop proches. Le meilleur conseil que vous puissiez donner à quelqu'un qui est très proche de vous, c'est d'aller chercher de l'aide ailleurs. Parce que à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous mêlez le professionnel à l'émotionnel et vous apportez encore plus de complexité à un problème qu'il est déjà suffisamment. Donc il faut avoir la possibilité de retirer de l'émotionnel, d'avoir quelqu'un qui avec vous travaille sur ces éléments de compétences et de reprise de confiance en soi, et les gens trop proches sont mal placés pour faire ça. Les parents qui veulent aider un enfant et qui, vous imaginez, c'est juste pas possible. Il faut confier le travail à quelqu'un d'autre. Donc il faut trouver quelqu'un, une organisation, et il en existe beaucoup, qui vous encourage à vous poser les bonnes questions. Troisième thème, il faut savoir tourner la page. Et Dieu sait que ça peut être difficile. Vous aviez un bon job dans une bonne société, vous étiez dans une région que vous aimiez, vos enfants étaient bien à l'école, tout ça c'est fini. Et tout ça ne reviendra pas. Et donc, tant qu'on n'a pas tourné la page, tant qu'on n'est pas en mesure de dire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je le prends comme acquis et je l'emmène vers une nouvelle destination dans ma vie, et qu'on est encore tiré vers l'arrière, on a beaucoup de mal à s'engager vraiment dans une recherche d'emploi positive. Et d'autre part, quand vous êtes en entretien de recrutement, votre interlocuteur veut savoir ce que vous allez lui apporter, lui, pas votre amertume de ce que vous aviez avant. Et donc, c'est la capacité à tourner la page, de mettre de côté les mauvais aspects, non pas de les oublier, parce que vous les oublierez jamais, mais de les mettre de côté, et par contre, d'identifier, de souligner les aspects positifs, et de dire, voilà, je tourne une nouvelle page dans l'histoire de ma vie. De ma vie en général, hein, pas seulement de ma vie professionnelle. Et puis ensuite, rester fidèle aux critères de réussite que vous avez identifiés, c'est-à-dire de ce que je disais tout à l'heure, au fond, qu'est-ce qui me convient, quelles sont les situations qui me conviennent. Je parlerai tout à l'heure de quelques exemples concrets. Il y a juste des situations qui ne sont pas faites pour vous. Et donc, n'allez pas vous y mettre, et au contraire, restez bien clair sur le fait que ce sont ces situations que vous allez rechercher et pas celles qui vous mettent en difficulté. Il faut aussi travailler sa communication. Alors, on fait beaucoup, évidemment, de travail sur comment communiquer ses centres d'intérêt, ses compétences qu'on peut apporter à l'entreprise. Et très souvent, les gens nous disent « Mais moi, je ne sais pas me vendre. » Et la réponse que j'aime faire, c'est « On ne vous demande pas de vous vendre, on vous demande de parler avec passion de ce que vous aimez. » Et il n'y a rien de plus communicatif que la passion. Et si vous parlez avec passion de ce que vous aimez et qu'il se trouve que ce que vous aimez correspond à ce que la personne en face de vous attend, ben le job vous l'aurez. Donc, n'essayez pas de vous vendre, essayez de parler avec passion de ce qu'on aime. Et puis, être aussi concret, c'est-à-dire se préparer à répondre aux questions difficiles qui sont inévitables. Ensuite, étudiez chaque proposition posément. Il est très tentant, quand il y a une proposition qui arrive, la personne de se précipiter en disant, voilà, ça fait 3 mois, 6 mois, il faut en moyenne 9 mois pour retrouver du travail. Et donc, c'est très facile de se précipiter et de commettre les mêmes erreurs. C'est-à-dire de se dire, voilà, je faisais ça autrefois, mais bon, il y a eu un petit incident, j'étais pas vraiment au niveau, ou ça s'est mal passé avec la direction, etc. Et d'oublier tout ça et de se remettre dans les mêmes difficultés. Donc vraiment avoir une analyse la plus objective possible et donc de se faire aider pour faire cette analyse. Au fond, qu'est-ce qui est attendu de moi dans ce poste? Ai-je vraiment les compétences, l'expérience et la personnalité requises pour ce job? Et puis il y a une dernière chose que j'aime citer, c'est labourer son champ. C'est-à-dire ne pas dévier à la première difficulté, ne pas abandonner, ne pas se dire, ben voilà, j'ai pas trouvé, ça fait 3 semaines que je cherche, j'ai pas trouvé, ça fait 15 jours que j'ai écrit à l'entreprise, personne ne m'a répondu, mais il faut reprendre son téléphone, il faut reprendre des rendez-vous, et il faut labourer son champ dans un sens et dans l'autre, et dans un sens et dans l'autre, et au bout d'un moment, ça finit par payer. Parce que, il faut avouer que dans la recherche d'emploi, le facteur chance joue aussi. Il y a un moment où ce job que vous attendez n'est pas disponible. Et 3 mois plus tard, il est disponible. Pourquoi, quand ? Dieu ne le sait. Mais vous avez labouré votre champ, et vous avez fini par récolter la moisson. Alors, je vais partager avec vous des exemples vécus. Le monde est petit, Toulouse est encore plus petit, et Castanet-Toulousain est encore plus petit. Donc, je m'excuse auprès de ceux que je vais citer, qui vont peut-être se reconnaître dans la transmission de cette présentation. Mais je le fais parce que j'ai beaucoup d'admiration pour eux, et je sais qu'ils ont traversé une période difficile et qu'on a pu les aider à retrouver du travail. Donc je vais d'abord vous citer le cas de changer de direction, changer assez radicalement de travail. Beaucoup de gens qui viennent me voir s'imaginent qu'ils vont faire un changement radical de carrière. C'est plutôt l'exception que la règle. En réalité, comme vous le verrez, si vous avez fait des études d'ingénieur, c'est probablement pas par hasard. C'est parce que vous êtes fait pour ça. Et vous n'allez pas devenir, comme on le dit souvent, on attend toujours l'expert comptable qui va devenir clown. On ne l'a pas encore trouvé. Voilà, donc je vais vous parler d'un garçon que j'ai accompagné personnellement, diplôme d'ingénieur, 7 ans de séminaire. Pas d'ordination. Et il est venu nous voir et il travaille aujourd'hui dans un département logistique, dans un groupe de luxe à Paris. Ça, c'est ce que j'appelle un changement de direction. Qu'est-ce qu'il lui a fallu faire lors de l'accompagnement? Se réinsérer dans la vie laïque. Tout était parti. Un accompagnement, un logement, un environnement social, un environnement émotionnel, un environnement religieux. Tout s'était fondu. Donc il a fallu reprendre, se réinsérer dans une vie laïque. Être en mesure de mettre en avant les compétences techniques qu'il avait acquises dans les quelques années où il avait travaillé avant de rentrer au séminaire. Et valoriser ses compétences humaines qu'il avait acquises pendant toutes ses expériences, et Dieu sait s'il y en avait, quand il était au séminaire. Et puis peut-être le plus important, apprendre le langage de l'entreprise. Parce que quand on passe du milieu religieux au monde de l'entreprise, on ne parle pas le même langage. Même si on veut dire la même chose. Donc, en répétition d'entretien, on ne dit pas merci pour cet entretien fraternel. Non. On dit merci pour cet entretien constructif. Qu'est-ce que vous dites? La même chose. Mais pas exactement dans la même langue. Donc, il faut réapprendre il lui a fallu réapprendre apprendre le langage de l'entreprise. Et puis quelque chose sur lequel moi j'ai beaucoup insisté dans cet accompagnement, parce que ça correspond à mon expérience personnelle et professionnelle: être au service des autres et vivre en cohérence avec ses valeurs peut se faire partout, même dans un groupe de luxe, même en tant que logisticien. On n'a pas besoin d'être religieux pour ça. Et donc il n'a pas eu à renoncer à ses valeurs. Il a fallu qu'il apprenne, qu'il accepte que ses valeurs, on pouvait les vivre autrement. Et je dois dire qu'aujourd'hui, il en est tout à fait content. Voilà, ça, c'est un repositionnement assez radical. Je vais prendre un autre exemple, reprendre goût à ce que l'on a fait. Jeune notaire salarié, bon, diplômé, plus de 10 à 15 ans d'expérience, burn-out sévère. Ne voulait plus entendre parler du monde notarial. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle est notaire salariée dans une autre étude. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu le goût de ce qu'elle avait fait. Elle avait complètement rejeté le monde dans lequel elle travaillait, et le travail que nous avons fait avec elle s'est vraiment préoccupé de lui faire accepter qu'elle était faite pour être notaire et qu'elle était une excellente notaire. C'est juste les conditions dans lesquelles on lui demandait de faire ce travail qui n'étaient pas la bonne. Elle était spécialisée dans tout ce qui est gestion de succession, et elle avait centaines de dossiers de succession sur son bureau. Quelqu'un qui est extrêmement méticuleux, extrêmement consciencieux, qui se retrouve avec 100 dossiers, il est dans la situation d'une tsunami qui ne peut pas arrêter. Je ne peux pas faire face à cette montagne. Et par conséquent, burn-out. Donc il a fallu identifier les raisons des difficultés rencontrées, et puis petit à petit choisir, de façon extrêmement précautionneuse, un nouvel environnement qui soit plus adapté, c'est-à-dire en gros faire le même travail, mais dans un environnement où elle n'ait pas cette pression excessive qui lui donne le sentiment qu'elle ne pouvait pas faire ce qu'elle devait faire correctement. Et là encore, très heureuse dans sa reprise de travail. Autre exemple que nous avons vécu, qui illustre l'importance de retrouver confiance en ses capacités. un poste de RH, donc responsable relations humaines à forte pression, à Paris. Là aussi un burn-out, plusieurs années d'arrêt. Une personne qui est arrivée chez nous en grande difficulté. Elle est aujourd'hui dans la région consultante système RH, c'est-à-dire des systèmes informatiques qui supportent les relations humaines dans les entreprises, en tant que consultante. Donc, très longue pause pour lui permettre de reprendre son souffle. Le bilan de compétences lui a permis de tourner la page, c'est-à-dire de dire, voilà, Paris, des responsabilités dans un grand groupe national, des responsabilités hiérarchiques, c'est pas pour moi. Identifier les situations à risque, c'est-à-dire en particulier dans les jobs RH, une implication personnelle très forte, où on se met trop à la place de la personne en face de soi, et on n'arrive plus à gérer émotionnellement. C'est le syndrome de l'aidant. Hein. Quand il faut prendre des décisions et qu'on se met à la place de la personne qui est en face de soi, on finit par être tiré entre des contraintes qui deviennent extrêmement difficiles à gérer. Donc, éviter des situations hiérarchiques trop tendues, éviter des situations de conflit, et apprendre à valoriser ses compétences dans un rôle de conseil. Qu'est-ce que fait le conseil? Il est en dehors de la mêlée, mais il donne des orientations. Et donc, c'est des compétences professionnelles que l'on peut tout à fait apporter, mais sans être au cœur de la mêlée, parce que c'était juste pas pour cette personne. Un autre exemple, exploiter ses compétences autrement. Jeune femme, école de commerce, consultant dans un gros cabinet parisien, énormément de pression, travaille à l'archevêché, est aujourd'hui professeur d'économie et gestion. Qu'est-ce qui a justifié ça? D'abord, un goût très fort, très marqué, de transmettre et de faire progresser. Et qu'elle n'avait pas réussi à retrouver dans ses fonctions précédentes. Et donc, s'intéresser aux enfants, s'intéresser aux adolescents, c'était quelque chose qui la passionnait. Beaucoup de personnes viennent nous voir, soit parce qu'ils veulent quitter l'éducation nationale, soit parce qu'ils veulent rentrer dans l'éducation nationale. Et pour celles qui veulent rentrer, nous avons toujours un conseil, c'est si ça correspond à ce que vous voulez faire, allez passer une semaine dans une classe. Pas une heure, une semaine dans une classe. Et vous nous direz si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Et les gens disent oui, tout à fait, je comprends les difficultés, mais ma classe est là. Pourquoi? Parce que ce goût de transmettre et ce goût de faire progresser est très fort. Et puis, une situation qu'on trouve très souvent chez des jeunes femmes avec enfants, meilleur équilibre professionnel et familial. C'est-à-dire c'est qu'on peut effectivement exploiter ses compétences et faire progresser sa vie professionnelle sans pour autant compromettre trop sa vie familiale. Les deux derniers exemples, s'accepter tel que l'on est. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure en disant finalement, c'est très bien de se décrire, mais encore faut-il s'accepter. Un garçon que j'ai accompagné était banquier à Lyon. Il est devenu entrepreneur à Toulouse et aujourd'hui il est banquier à Toulouse. Et il lui a fallu comprendre pourquoi le métier d'entrepreneur ne convenait pas. Parce que le métier d'entrepreneur, c'est une pression quotidienne, nuit et jour, j'allais dire. Et il y a des gens qui ont un grand plaisir à faire ça, et pour d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus difficile. Il fallait identifier pourquoi il avait quitté le métier de la banque. Pour devenir entrepreneur. Il y avait une opportunité familiale qui s'était présentée, il y avait ce sentiment que d'autres l'avaient fait et que donc je pouvais le faire. En tant que banquier, il avait conseillé beaucoup d'entrepreneurs. Il s'est dit, au fond, je peux le faire moi aussi. Et non. Parce qu'en réalité, il était fait pour être banquier. Et Et donc il a fallu qu'il traverse ce chemin, le terme de traverser, et qu'il réalise qu'au fond sa place était dans la banque et qu'il était là pour financer les entreprises qui se développaient mais qui étaient gérées par d'autres. Et puis une autre chose, c'est que, et ça c'est quelque chose qui est important à réaliser aussi, travailler seul en tant qu'entrepreneur ou à la tête d'une petite entreprise, c'est pas la même chose que travailler pour le Crédit Agricole ou la Société Générale, où il y a des tas de gens qui font tout pour vous. Quand vous êtes entrepreneur, vous faites tout vous-même. Donc, le fait d'accepter qu'on a besoin d'un environnement autour de soi, c'est très important. Et puis, je voudrais terminer sur quelque chose qui m'a beaucoup touché, poursuivre sa passion. Une jeune femme qui était passionnée par la diététique et qui avait une compassion naturelle pour le grand âge. Et elle est devenue diététicienne pour les maisons de retraite. Elle avait identifié un vrai besoin. Les personnes âgées en maison de retraite, le manger correctement est absolument essentiel. Non seulement pour leur bien-être, mais pour leur morale aussi. Parce que c'est le moment du repas est quelque chose d'important dans la journée. Donc elle avait identifié ce vrai besoin. Mais il fallait convaincre les opérateurs de s'en préoccuper. Parce que le chiffre qu'elle avait cité de combien était dépensé en budget nourriture par personne dans une maison de retraite, en dehors de la préparation, c'est-à-dire du personnel, c'est quelques euros, du genre 3 ou 4 euros par jour et par personne. Donc on ne peut pas dire que ce soit une préoccupation indigne. C'était un vrai challenge pour elle. Elle a labouré son champ pendant des mois et des mois et des mois. Et finalement, elle a réussi à convaincre et mettre toute son énergie pour être acceptée, et se faire accepter pour devenir effectivement diététicienne en maison de retraite. Voilà. Pour terminer, je voudrais partager avec vous une expérience personnelle. J'ai bien connu un homme qui a perdu son travail à 55 ans, un âge que je trouvais très canonique à l'époque, j'ai changé d'avis, n'a jamais pu retrouver quelque chose à la hauteur de ses attentes, a traversé l'épreuve seul, sans pouvoir ou sans vouloir se faire aider, s'est senti dévalorisé et isolé socialement, n'a pas trouvé d'opportunité pour mettre bénévolement ses talents au service des autres, s'est retrouvé humiliation supplémentaire en retraite forcée et non choisie, et est décédé quelques années plus tard en raison de maladie. Et cet homme, c'était mon père. Et donc voilà une des raisons pour lesquelles je me suis fortement engagé avec ACT. Voilà pourquoi je sais combien l'épreuve du chômage peut être traumatisante. Et voilà aussi pourquoi je sais qu'on peut la traverser avec succès. Poser deux thèmes de réflexion, parce qu'on m'a demandé de le faire. Et...